corriger du texte à trous sur la notion de raison. La raison, c'est une notion du programme de philosophie qui est associée à deux des trois perspectives de ce programme. La première perspective, c'est la perspective de la connaissance, puisque nous utilisons notre raison pour accéder à la vérité, pour constituer l'ensemble de nos connaissances, donc notre savoir. La raison est donc très fortement liée aux autres notions du programme que sont la science et la vérité. Mais la raison est une notion qui est aussi fortement connectée à la deuxième perspective du programme, qui est la morale et la politique, plus particulièrement la morale. La raison, c'est en effet la faculté qui, dans ce domaine, nous permet d'agir de manière raisonnable, soit en nous permettant de bien guider notre volonté et de ne pas céder à toutes nos passions. Et je rappelle à cette occasion qu'en philosophie, la notion de passion recouvre tout ce que nous vivons de manière passive, autrement dit, tous nos désirs, nos affects, nos émotions. Et on sait que ces passions, ces émotions, ces affects, ces désirs, ils vont avoir une influence sur notre comportement et parfois nous pousser à agir de manière déraisonnable. Donc, on va retrouver la notion de raison associée aux autres notions que sont le devoir ou la liberté. Quand on agit par devoir, en général, on agit en suivant sa raison contre ses passions. Quand on se demande si la liberté, c'est faire tout ce que l'on désire, eh bien, on pourra opposer à l'idée que être libre, c'est faire tout ce que l'on désire, l'idée que être libre, c'est faire tout ce que l'on veut réellement de manière rationnelle. C'est ne pas être prisonnier de ses désirs, de ses passions, mais au contraire s'en libérer grâce à l'exercice de la raison. Nous allons donc passer au corrigé du texte à trous. On commence par l'étymologie du mot raison, qui vient de ratio en latin et qui renvoie initialement au domaine mathématique, au domaine du calcul. La raison, c'est donc initialement la faculté qui permet de calculer, de produire un raisonnement mathématique, et ensuite ce sens s'étend à toute forme d'exercice du raisonnement dans différents domaines, dans différents champs. C'est pourquoi le mot raison en latin est un mot polysémique et que on retrouve cette polysémie en français. Le mot raison a un nombre de sens très important et il faut que vous maîtrisiez l'ensemble de ces sens pour pouvoir expliquer des textes sur la raison ou pour pouvoir produire des dissertations sur des sujets impliquant la raison. On va d'abord distinguer les deux sens principaux du mot raison, parce que quand on utilise ce mot, c'est soit pour parler de la raison de quelque chose, c'est le sens numéro un du texte à trous, soit pour parler de la faculté que nous avons, qui est une faculté de connaître, de produire des raisonnements. Il semble qu'il y a peu de liens entre les deux, en tout cas que c'est assez étonnant d'avoir ces deux acceptions différentes. Pourtant, il y a un lien puisque justement la raison que nous utilisons pour connaître les choses, c'est ce qui permet d'expliquer les choses, donc d'en connaître la raison, d'en connaître la cause. Autrement dit, c'est grâce à ma raison que je connais la raison d'être des choses qui m'entourent. Regardons donc la définition numéro 1, la raison de quelque chose. Synonyme de cause, fondement, principe, motif ou encore justification. C'est la raison d'être d'une chose, autrement dit le fondement objectif de l'existence de cette chose, et donc ce qui permet de l'expliquer. Exemple, la raison égale le motif de ma colère. Donc ici, raison est synonyme de motif. Deuxième exemple, la raison égale le fondement de mon jugement. Ici, raison, quand il s'agit d'un jugement, eh bien, c'est ce qui le fonde, donc le fondement. La raison, donc troisième exemple, la raison égale la cause de la pluie. Ici, dans ce troisième exemple, j'ai pris un phénomène naturel, et donc pour les phénomènes naturels, on dira qu'on les expliquera en mettant en évidence leur cause. Donc la raison, c'est équivalent à la cause dans ce cas. Le but, c'était donc de mettre en évidence ce premier sens et le caractère en soi déjà assez polysémique de ce premier sens. Ce qu'on peut dire de manière générale de ce premier sens, c'est que la raison ici, c'est ce qui répond à la question « qu'est-ce qui explique cela ?» La raison, c'est justement ce qui explique tel ou tel phénomène. Qu'il s'agisse d'un phénomène naturel comme la pluie, d'une émotion comme la colère qu'on éprouve, ou qu'il s'agisse d'un phénomène de pensée comme un jugement qu'on émet, comme une idée que l'on a. Passons maintenant au deuxième sens qui est le plus important pour nous dans le cadre de la réflexion philosophique, c'est la raison au sens de faculté de raisonnement. Donc c'est le sens numéro 2 que je vais lire en complétant. Donc sens numéro 2, la raison humaine. Faculté intellectuelle qui permet de former des idées et de raisonner, c'est-à-dire d'enchaîner ces idées avec logique et cohérence pour parvenir à une conclusion valable. Le syllogisme est un modèle classique de raisonnement démonstratif. Ici, je vous invite à aller voir à la page 39 du dossier Notion, repère, méthode. La raison, c'est la faculté principalement utilisée par les scientifiques et les philosophes. La raison peut désigner la partie de l'esprit où s'accomplit la pensée et qui assure la connaissance des choses et la compréhension de l'enchaînement des faits. Elle s'oppose alors à d'autres parties de l'âme comme la sensibilité ou l'imagination. Dans la philosophie et la science contemporaine, on parlera plutôt de fonction de l'esprit plutôt que de partie de l'âme, qui repose sur la croyance en l'existence de cette dernière. Alors, je vais m'arrêter là dans le corrigé du texte à trous pour reprendre certains éléments. Tout d'abord, je vous invite à faire une petite pause sur cet enregistrement et à aller dans le dossier complet notion repère méthode à la page 39, puisque je souhaite préciser 2-3 choses sur le raisonnement qu'on appelle le syllogisme et sur les problèmes de raisonnement qu'on appelle les paralogismes. Alors, la plupart des grands auteurs de la philosophie se sont intéressés à la question de la raison, tout simplement parce que la raison, le logos en grec, logos qui a donné biologie, qui a donné logique, donc le logos, la raison, c'est la faculté que les philosophes utilisent. Forcément, ils se sont beaucoup intéressés, dans le fond de leur réflexion, sur cette question de la raison. Mais il y a, parmi les auteurs de la tradition philosophique, un premier auteur particulièrement important qui s'appelle Aristote, qui a été l'élève de Platon, Platon qui avait été lui-même l'élève de Socrate, et dans les œuvres qui nous restent d'Aristote, il y a une œuvre qui s'appelle les analytiques, les premiers analytiques et les seconds analytiques, et c'est l'une des premières œuvres qui concerne très précisément la question des raisonnements et la question de la logique. Et dans cette œuvre, Aristote va étudier très précisément la forme de raisonnement qui est la forme vraiment basique du raisonnement, à savoir le syllogisme. Au bas de la page 39, donc, je vous donne un exemple classique de syllogisme avec à côté le schéma de ce qu'on peut appeler sa formalisation. Et ce syllogisme classique, je vous invite à l'apprendre si vous ne l'avez jamais entendu. Il s'agit du syllogisme suivant. Tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. La première chose qu'on peut dire de ce raisonnement, c'est qu'il est constitué de 3 éléments, 3 phrases. Les 2 premières sont ce qu'on appelle les prémices. Ce sont des connaissances que nous avons déjà. La 3e phrase, c'est ce qu'on appelle la conclusion. La conclusion, c'est une connaissance que je n'ai pas, mais que je tire des 2 premières de manière logique. On imagine ici que ce qu'on veut savoir, c'est si Socrate est un être mortel ou pas. Pour savoir s'il s'agit d'un être mortel ou pas, il va falloir que je définisse s'il appartient à une catégorie de choses qui sont mortelles ou qui sont des êtres vivants. En l'occurrence, je sais que Socrate est un philosophe et qu'il est un être humain. Par conséquent, or les êtres humains, ce sont des êtres vivants. Donc, Socrate appartient bien à une catégorie plus générale d'êtres, les êtres humains, qui eux-mêmes appartiennent à une catégorie plus générale, qui est la catégorie des êtres vivants ou mortels. On voit donc que l'opération logique, c'est en fait une opération de classement. Nous passons notre temps à classer les choses, à les mettre dans des catégories, et c'est comme ça que nous parvenons à les connaître, c'est-à-dire à les définir. Donc, pour faire un syllogisme correct, il faut que dans mes prémices, donc les choses que je sais déjà, il y ait une affirmation qui est une affirmation dite universelle, qui porte sur une catégorie générale. Ici, donc, la prémisse universelle, c'est tous les hommes sont mortels. Ce qui montre l'universalité, c'est le tous qui est au début de l'affirmation. Et ensuite, je dois avoir une affirmation particulière, c'est-à-dire qui porte sur un cas particulier. Ici, mon cas particulier, c'est Socrate. Socrate est un individu. Et ensuite, je peux procéder à mon opération de classement. Cette opération de classement, je l'ai représentée par le petit schéma avec les patates imbriquées, un peu comme des poupées russes. Mon individu Socrate, mon cas particulier, se trouve dans une patate, une catégorie qui est la catégorie être humain, qui elle-même se situerait dans une patate qui serait la catégorie des êtres vivants ou des êtres mortels. Et par conséquent, si mon individu Socrate appartient à la première patate qui est contenue par la plus grande patate, eh bien, il appartient également à la plus grande patate. Socrate est mortel. La patate que vous avez représentée à la page 39 est une représentation du syllogisme formalisé, celui qui est sous la forme tout y est x, or z est y, donc z est x, mais on peut évidemment reprendre ce schéma pour toute forme de syllogisme concret, comme je l'ai fait avec mon syllogisme de départ sur Socrate. Je vous invite, pour bien comprendre tout ça, à vous exercer vous-même à produire des petits syllogismes. Vous pouvez faire, je vous donne un exemple, vous pouvez faire un syllogisme qui vous concerne, qui pourrait être le suivant. Tous les élèves de terminale passent le bac, or je suis un élève de terminale, donc je vais passer le bac. Et vous pouvez par ailleurs vérifier que ce syllogisme est correct avec la technique des patates. Je dis ça parce que, en fait, il y a beaucoup de raisonnements qui ont l'air d'être corrects et qui ne le sont pas. Ça, c'est ce qu'on appelle des paralogismes. Para, ça signifie à côté, et logisme, ben, ça renvoie à la logique. Donc, un paralogisme, c'est ce qui a l'air logique, mais qui, en quelque sorte, est à côté de la plaque. Et pour illustrer cela, je vous ai donné un petit exemple très absurde, très caricatural, mais qui a le mérite de faire bien comprendre l'un des premiers problèmes qu'on peut avoir dans un raisonnement et qui le biaise, qui le fausse. Je vous lis ce syllogisme qui est absurde et parfaitement faux. Tous les oiseaux sont des insectes, or tous les insectes sont des poissons, donc tous les oiseaux sont des poissons. Ce qui est intéressant ici, c'est que la forme du syllogisme est tout à fait correct. Il y a bien une prémisse universelle, une prémisse particulière. Si je fais mes patates, tout va bien s'imbriquer. Et ensuite, j'ai une conclusion qui, sur le plan formel, est correcte. Sauf que le problème ici, c'est un problème non pas de construction formelle, c'est un problème de sémantique, c'est-à-dire un problème de sens, de rapport à la réalité. En fait, les affirmations, elles sont tout simplement fausses. Elles ne correspondent pas à la réalité. Petit rappel, définition classique de la vérité, c'est l'adéquation entre la pensée et la réalité. Là, en l'occurrence, il n'y a aucune adéquation entre la pensée et la réalité. Donc, le syllogisme, il est parfaitement logique, mais il est parfaitement faux. Mais évidemment, il y a aussi des raisonnements qui ont l'air logiques, mais qui ne le sont pas. Exemple de paralogisme qui cette fois-ci pose un problème vraiment de construction. Tous les chats sont mortels, Socrate est mortel, donc Socrate est un chat. Là, vous voyez, on a une apparence de syllogisme. Il y a un lien entre les différentes prémices, la catégorie mortelle. Le problème, c'est que si je fais le test des patates, je vais m'apercevoir que, en fait, les chats et Socrate appartiennent à une même catégorie, mais que Socrate peut très bien appartenir à la catégorie chat comme ne pas lui appartenir. Il n'y a pas de nécessité à placer l'individu Socrate dans la catégorie chat. Autrement dit, la conclusion n'est pas nécessairement fausse, elle n'est pas non plus nécessairement vraie. Il se peut que Socrate soit un chat, mais il se peut aussi que Socrate soit un autre type d'être vivant ou mortel. Je n'ai tout simplement pas le droit logiquement de tirer cette conclusion des informations que j'ai. Or, ce type de raisonnement fallacieux est en fait très fréquent et on commet ce type d'erreur extrêmement fréquemment où on se fait avoir par ce type de raisonnement tout aussi fréquemment. Car toutes les erreurs de raisonnement ne sont pas aussi caricaturales que dans les exemples que j'ai pris. Ce qui est aussi fréquent dans les paralogismes, c'est d'établir une corrélation entre deux choses qui ne le sont pas, soit parce qu'elles se succèdent dans le temps de manière accidentelle, soit parce qu'elles s'expliquent par une même cause, mais ne sont pas elles-mêmes causes l'une de l'autre. Par exemple, ce matin, je n'ai pas pris mon petit déjeuner, j'ai réussi mon bac blanc de philosophie, donc je réussis mieux à philosopher le ventre vide. On voit ici un exemple de paralogisme temporel. Autre exemple de mauvaise corrélation, il y a plus de criminalité dans les villes où il y a le plus d'édifices religieux. Donc, la religion favorise la criminalité. Ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a en réalité deux phénomènes qui s'expliquent par une même cause. Il y a plus de criminalité quand il y a plus de monde, donc dans une plus grande ville, et il y a plus d'édifices religieux dans une ville quand il y a plus de monde, quand elle est plus grande. Donc les deux phénomènes s'expliquent par une même cause, la taille de la ville, mais ils ne s'expliquent pas l'un par l'autre. L'un n'est pas la cause de l'autre, et c'est une erreur de faire de l'un la cause de l'autre. Voilà pour cette petite digression sur le raisonnement, sur le syllogisme, puisque j'en parle, mais je ne le définis pas dans mon texte à trous. Donc, on va reprendre le fil du texte à trous et on est au niveau du troisième paragraphe pour le sens numéro 2, la raison humaine. Donc, ce paragraphe commence par « Elle représente aussi la faculté de bien juger ». Et deux, ici le terme c'est discerner le vrai du faux en s'appuyant sur des raisons et des justifications. Il s'agit toujours d'un mode de connaissance discursif, car elle s'appuie sur une réflexion pour parvenir à la connaissance, par opposition à l'intuition, qui est une connaissance immédiate et qui ne passe par aucun raisonnement. Alors ici je fais des petits renvoie à des repères du programme de philosophie. Alors les repères, ce sont des éléments de vocabulaire que on utilise très très souvent dans les réflexions philosophiques. Ici, c'est notamment l'opposition entre l'intuitif et le discursif que j'utilise. Discursif, ça vient de discours. La raison, dans notre tête, elle correspond à un moment où on se parle, où on enchaîne des idées, comme dans un discours. D'ailleurs, ça renvoie au grec ancien, le logos, qui est à la fois le discours et la raison, en fait. Donc, le discursif, c'est ce qui se produit sous la forme du discours, alors que l'intuitif, c'est ce qui est direct, immédiat. Ça ne passe pas par la médiation de la parole. J'ai directement une connaissance. J'ai pas besoin d'élaborer un raisonnement sous forme de discours. Alors, on va désormais passer à une distinction conceptuelle importante, le sens numéro 3, en tout cas le paragraphe numéro 3, qui distingue la raison pratique et la raison théorique. Donc, en fait, c'est le sens du mot raison comme faculté de connaissance, mais qui ici va se différencier en fonction du champ dans lequel on utilise cette faculté. Soit le champ de la connaissance, proprement dite, soit le champ de la morale. Enfin, de la morale et de l'action en général, hein, d'où l'opposition entre le théorique qui renvoie à la connaissance pure et le pratique qui renvoie à l'action. C'est parti pour la correction du texte à trous. Donc, trois, raison théorique, raison pratique. Il y a deux grands usages de la raison qui nous permettent de distinguer. Premier tiret. La raison théorique. J'utilise ma raison pour produire une nouvelle connaissance et uniquement dans le but de la connaissance. Exemple, je cherche la solution d'un problème mathématique. L'adjectif correspondant, c'est rationnel. Se dit de ce qui est conforme à la raison théorique. Exemple, un discours rationnel est un discours sensé et cohérent. Contraire, irrationnel. Exemple, la peur de l'avion est irrationnelle puisque les statistiques montrent que c'est le moyen de transport le plus sûr du monde. En philosophie, la raison essaie de construire des arguments les plus convaincants possibles afin de fonder une thèse ou une position sur un problème donné. Une position sur un sujet n'a en effet pas de valeur si elle n'est pas justifiée par une argumentation. Elle reste alors à l'état de simple opinion sans fondement. Deuxième tiret. La raison pratique. J'utilise ma raison pour produire une action, notamment pour produire une action morale. Je définis grâce à elle l'objectif et les moyens de mon action. Exemple, élaborer une stratégie pour ses révisions de baccalauréat et s'y tenir malgré les tentations. Adjectif correspondant raisonnable. Se dit de ce qui est conforme à la raison pratique. Exemple, il n'est pas raisonnable de commencer à réviser son bac la veille de l'épreuve. Voilà, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de choses à repréciser et que c'est assez clair. Juste pour l'exemple, pour la question de la raison pratique, il faut bien distinguer ce qui relève de la stratégie et qui n'est pas forcément moral et ce qui relève plutôt de la morale, c'est-à-dire du fait, par exemple, dans l'exemple que j'ai donné, donc élaborer une stratégie de révision et s'y tenir malgré les tentations. Il y a quelque chose de plus moral dans la deuxième partie de cet exemple, c'est-à-dire qu'on va justement avoir de la volonté contre les passions qui peuvent nous éloigner de ce qui est bon pour nous. Donc là, on est plus dans le domaine de la morale, alors que la question de la stratégie, c'est plus une question d'organisation par rapport à un but que je veux atteindre. Je vais passer au quatrième sens. Alors, c'est pas forcément un autre sens du mot raison, mais c'est un terme, le terme entendement, qui est un terme que vous allez retrouver dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de textes de philosophie anciens. Pendant très, très longtemps, on ne parlait pas de la raison théorique, on parlait, enfin, en tout cas, plus précisément, pour parler de la raison théorique, donc de celle qui connaît, on utilise le terme entendement. C'est un terme qu'on retrouve encore aujourd'hui dans l'expression c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression. Quand quelque chose dépasse l'entendement, ça signifie que c'est incompréhensible. Ça va au-delà de nos capacités à comprendre. Voilà, donc entendement, je souhaitais en donner une définition car vous risquez de le rencontrer dans les textes, éventuellement dans les textes de Bach. C'est un terme ancien, globalement synonyme de raison théorique. que l'on retrouve dans de nombreux textes de la tradition philosophique. Exemple, Enquête sur l'entendement humain est un essai de David Hume. Quand un philosophe s'interroge sur l'entendement, il s'interroge sur les facultés cognitives de l'être humain, c'est-à-dire sur ses capacités à connaître le monde qui l'entoure. Cognitif, ça vient, en tout cas c'est un mot de la même famille que connaissance. Les facultés cognitives, ce sont toutes les facultés qui nous permettent de connaître les choses. Voilà donc pour ce corriger du texte à trous. J'espère que tout a été clarifié et que les différents sens de la notion de raison n'ont plus de secret pour vous.